Mon nom est Bernard Bockel, nous sommes le 15 février 2007. Je suis à Saint-Pierre-Joly et je suis en compagnie de Monsieur Maurice Hébert, né en 1939. Alors nous allons commencer, si vous voulez bien, Monsieur Hébert, par vos premiers souvenirs sur la ferme paternelle.
Bien, mes premiers, je suis venu au monde en 39, fait que mes souvenirs peut-être sont alentour quand la guerre est finie, là, en 45. Mon père avait une ferme avec des animaux à lait, et puis tout allait bien. Pour continuer l'histoire peut-être, c'est que je crois c'était en 48 qu'il y a eu la tuberculose dans les animaux, et puis il a fallu que ils se débarrassent des animaux. L'étable était vide. L'étable avait été toute whitewash, qu'il appelle dans ce temps-là.
Oui,
là.
Il fallait désinfecter tout.
Ouais, bien. Ouais. Et puis, je pense que c'est avec l'agronome, M. Lafrance, qui s'est venu ce sujet que peut-être qu'il pourrait remplir l'étable avec des bœufs pour faire l'insémination artificielle. Je crois que les bœufs, pour commencer, étaient de la province. Et puis après ça, il y a eu des bœufs fédéraux, Federal Bulls.
Alors, c'était des bœufs de quelle race?
Des Holstein.
Et donc, l'idée que proposait Joe Lafrance à votre père, c'était quelque chose de nouveau
oui.
dans la région?
Pour moi, je n'étais pas bien vieux, mais pour moi, oui, pour la région, oui, c'était très, très nouveau, oui.
Et qu'est-ce qui était de vraiment nouveau dans cette affaire-là?
Parce qu'on collectait la semence, on la mélangeait avec des jaunes d'œufs, on la mettait dans des petits viales, et puis c'était envoyé en travers du Manitoba, mais pas en travers de tout le Manitoba, mais il y avait comme... Dominion City, Stonewall, peut-être un autre ou deux places. Là. Puis là, ben, les individus prenaient la semence qui était mélangée avec des jaunes d'œufs et servaient des pipettes. Dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui avec un gant. Et puis, on dirait en bon canadien, bridait la vache. Je ne sais pas exactement ce que tu veux de plus. Là. C'est ça que l'étable faisait. Je veux dire, prenait un bœuf, faisait sauter le bœuf, prenait la semence, mélangeait la semence dans des petits viales, et puis ça, c'était envoyé dans... C'était mis dans des thermos pour le tenir frais. Puis c'était mis sur le boss. Ça ne durait pas tellement longtemps, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la semence est gelée dans du nitrogène. Et puis, ça, on envoyait ça au Manitoba dans le temps.
Alors, il y avait combien d'élevages de ce genre? Vous étiez les seuls dans la région?
Ah oui, on était les seuls dans la région. C'était fait dans la vieille étable, ça, dans le temps. Et puis, je crois qu'en 50... Là, je ne sais pas si c'est le gouvernement provincial ou c'était une organisation qui a fait bâtir l'étable. C'est le gouvernement provincial. Ils ont monté une étable dans la cour. Elle était faite pour recevoir ou garder ses monstres de bœufs. Mais les bœufs étaient tellement gros, des Holstein bœufs. Il y en avait, le porc, il y en avait qui était 12 pieds de long, puis c'était plus haut qu'un homme. Et puis...
Est-ce que ça faisait peur à un jeune comme vous?
Ah oui. Ça faisait peur au gros du monde. Il y avait... C'était des immenses de bœufs.
Alors donc, dans la vieille étable, il y en avait combien? Parce que essayons de comprendre un peu la rentabilité. Yeah. Essayons de voir un
peu... Je pense que ça a peut-être commencé par un ou deux, ou trois, ou quatre. Monsieur Joubert, cet après-midi, là.
Cymax.
Il y avait Cymax, Ajax.
Windex.
Windex. Léo Carrière, il en avait un, oui?
Non. Monsieur Carrière, alors.
Mm. Il n'y avait pas un peu qui appartenait à Léo Carrière là-dedans?
Oui.
OK.
Il y avait cinq.
Ça, c'était dans la vieille étable, ça?
Dans la vieille étable, il y avait cinq.
OK. Dans l'étable neuve, il y avait huit. C'était fait pour huit.
Alors, donc, il y avait cinq bœufs enregistrés. Ça doit valoir une fortune.
Ah, mais ça appartenait à la province, ça appartenait à du monde qui avait des piastres, oui.
Ah, d'accord. Donc, finalement, vous ne faisiez que de vous en occuper, pour ainsi dire.
Oui. Je ne sais pas comment ce que...
Donc, vous n'avez jamais été propriétaire de ces animaux?
Non.
D'accord.
Oui, mais tu devrais t'asseoir avec nous autres, toi aussi.
Ben oui, alors asseyez-vous, puis vous allez participer à la discussion. Là.
Monsieur Denis Joubert, oui.
C'est pas
monsieur, c'est Denis.
Ben, c'est Denis,
oui. Tu sais,
c'est Maurice aussi.
Alors, puisque vous avez la mémoire un petit peu plus longue, forcément, que Maurice Hébert, racontez-nous comment vous avez vu ces débuts-là.
Bien, c'est à tout nouveau, parce que il est arrivé Saint-Auro de l'Est. Et il y en avait trois qui venaient de Raymondale Farm, du Québec. Puis il y en avait deux qui venaient de l'Ontario, là. Ajax, puis Gwendax.
Cymax, oui.
Cymax. Ça venait de Québec.
OK.
Et puis, c'était tout nouveau pour voir ces gros taureaux-là, chez eux. Quand on allait là, des fois, ils faisaient des journées là, de...
Présentation,
oui. Et puis, on voit ces taureaux-là, puis là, on voit comment que c'est que la semence était extraite, puis tout.
Ces animaux-là, il fallait qu'ils soient nourris spécialement. Et si c'était des gros animaux, il fallait que le mélange de moulé s'est fait avec précision. Il lui donnait un petit peu de... un petit go-ahead, là, comme pour... non, les femmes sont plus belles. Ça fait que il venait des fois, quand ils étaient prêts à faire leur job, il n'était pas le fun. C'était des gros bêtes, c'était des grosses bêtes, puis il fallait le laisser faire. Mais à part de ça, il y avait, pour moi, quand j'étais petit, surtout dans l'étable neuve qui était bâtie en 50, je crois.
50-51.
Ça allait mieux pour nettoyer l'étable parce qu'ils nous avaient mis ce qu'ils appelaient. Comment c'est pas ça? Le rail, il y avait un rail dans le milieu, là, puis une espèce de bucket. Là. Ça allait bien pour nettoyer parce qu'on mettait la fumier là-dedans, puis ça s'en allait au bout. C'est pas comme. Tu peux pas le ramasser. Puis la mettre dans une barouette, puis le charrier dehors. Il y avait aussi un qui s'appelait un merry-go-round. Ça, c'était ma job, ça. Merry-go-round, c'était comme un...
Pour les exercices.
Il fallait que les bœufs prennent l'exercice. Sans ça, ils étaient debout tout le temps sur... dans le temps, c'était du bois, du ciment. La nouvelle étape, c'était...
T'as
tout du ciment. Et puis, il fallait les sortir une fois par jour. Quand le soir, quand j'arrivais de l'école... le père, il mettait d'habitude quatre bœufs, parce qu'il y avait place pour quatre. Et puis, il voulait les faire donner l'exercice. Donc, il tournait en rond. Je ne sais pas si eux autres aimaient ça, mais moi, je n'aimais pas ça.
Ben justement, est-ce que vous pourrez essayer, là, pour quelqu'un qui va nous écouter un jour, là, est-ce que vous pourriez lui décrire un peu la scène? Il était comment, ce merry-go-round?
Le centre du merry-go-round, si je me rappelle tout le temps, c'était une grosse roue. Une grosse roue de fer qui appartenait peut-être à
le plus gros tracteur qu'il n'y avait pas dans le temps. Là. C'était une grosse roue. Là.
Toi, Denis, peux-tu m'aider sur ça? Là?
Oui, je peux t'aider, Maurice. Mais oui, tu c'était une roue. C'était une roue spéciale, une demeure grande, hein, tu sais.
Ça fait spécial?
Oui, oui, c'est spécial, ça. Tu sais, parce que tu commences à être grosse, tu mets tes quatre bœufs, là, tu sais. Puis il était attaché, là, puis là, il tournait alentour, hein. Puis là, il y en avait un qui partait toujours de travers, au contraire des autres.
Puis là, alors, comment vous pouviez-vous les contrôler comme gamin? Comment c'était possible?
Le père m'avait fait un fouet qui venait d'une... un courroie d'une vieille batteuse. Je me rappelle, elle était ronde. Il l'avait roulé dans un bout là, pour faire un manche avec de la binder wire. Ouais. Après ça, la fouette, il était peut-être à peu près une quinzaine de pieds de long, une dizaine de pieds de long peut-être. Parce que des fois, je pouvais m'assurer sur la roue, puis j'étais rendu assez bon que je pouvais aller le fesser le bœuf qui voulait faire le fou. Là. Je le faisais quasiment comme les cowboys, ils le faisaient snapper. Là, tu sais. Claw! Et là, le but avançait, mais comme Denis disait, il fallait la continuation. Il ne fallait pas les faire arrêter, parce qu'ils faisaient arrêter, ils se reviraient de bord, ils se regardaient,
le bateau
ils prenaient.
Ah oui. Ça, avez-vous vu des batailles?
Oui, vu des batailles, oui. Hey, il fait de poignée dans bien des affaires aussi. Il y en a qui se décrochaient, il y en a qui partaient. Oh, t'as pas le fun!
Ben non, vous aviez quel âge, là?
Ouais. Je pensais que j'étais encore tout le temps trop jeune, mais je devais avoir l'alentour de 10-12 ans, je pense.
Ben oui, c'est toute une responsabilité, quand même.
C'est pas moi qui les emmenais accrochés. Ça faisait juste tout un an. Quand j'avais cet âge-là, je faisais juste les faire tourner alentour.
Pour combien de temps?
Le temps du train. Ça, c'était long, me semble. Ça devait durer à peu près quand même 3-4 heures. Quasiment une heure. Puis, il y avait une loi. Aussitôt que la température descendait en bas de 10, la vieille méthode, là, j'avais pas besoin d'y aller. Fait que des fois, quand il faisait froid en hiver, j'étais content.
À moins 10 degrés Fahrenheit.
Ouais.
Alors, vraiment, vous n'avez pas du tout aimé faire ça?
Non, je n'étais pas trop fou de ça, non.
Parce qu'on ne sait jamais.
C'était dangereux. J'ai eu des malchances. Un coup, pas mal. Après un bout de temps, ça vient comme monotone. Fait que, je sais pas pourquoi. Là. Je faisais juste regarder. Je regardais en l'air, là, I guess. Ça. Le but a arrêté, j'ai rentré dedans. Puis lui, il n'a pas aimé ça. Fait qu'il m'a donné un coup de pied. Fait qu'en me donnant le coup de pied, il m'a pogné bien comme il faut. Puis il m'a assommé. La chance qu'il m'a assommé sur le bord de la roue. Je me suis réveillé, puis il y avait un docteur par-dessus moi. Juste qu'il m'avait étouffé, c'est tout.
Mais donc, est-ce qu'aujourd'hui, ça sera encore possible?
Ils doivent le faire ailleurs, ils doivent le faire à des places, ça.
Non, mais je veux dire qu'on confie ça à un enfant de 10 ans comme ça.
Ah oui, mais écoutez, là. Et quand tu regardes dans les 50, là, quand tu étais sur la ferme, si tu avais 10 ans, 12 ans, tu faisais bien les affaires.
C'est ça.
Ça fait que c'était partie de la game, ça.
Alors, il ne vous serait pas venu à l'idée de refuser?
Non, non. Non, non. Il y avait des journées qui faisaient beau, t'as bien. J'avais pas besoin d'aller travailler dans les tables. Ça fait que j'avais pas besoin de... Non, il y avait des journées qui étaient correctes, mais quand des journées, là, ils sont froides, bon, non, ils ventaient fort ou la pluie, ouais. On y fait bien des affaires. J'ai déjà essayé aussi de mettre ma langue sur la pipe en hiver. Il faut lui que je tourne à l'alentour à peu près 3-4 fois. Un morceau de langue qui avait resté.
Carrément?
Oui, mais tu sais, des pipes. Hein?
Ah oui, on a tous fait ça à un moment donné.
Yeah.
Alors, est-ce que la technique a comme... Donc, premièrement, si le gouvernement a accepté de bâtir cette étable-là, c'est que votre père avait fait ses preuves.
Oui. Mais comme à Saint-Pierre, père faisait l'arrondissement, comme il allait sur Denis et Joubert, il allait sur plusieurs fermiers, il faisait un grand un arrondissement qui prenait Araburn,
Grantall,
Cleefelt, Saint-Malo, il allait Ben, Kerry, dans ce temps-là, il y avait des vaches à Kerry, il y avait des vaches partout. Les dernières, oui. Il y avait un grand district.
Il y avait un grand district.
Yeah.
Bon, alors donc, il y avait... ça. Décrivez-moi le travail, la responsabilité qu'avait votre père. Une fois qu'il a accepté de s'occuper de cette semence de taureau.
Bien, la responsabilité était de breeder des vaches quand les clients appelaient, d'aller faire le breeding, artificial breeding.
Ouais. Mais pour l'occupation, c'est sur le taureau, c'est ça l'occupation.
C'est ça qu'il veut savoir, là. Sauter le taureau. Ouais.
C'est comment est-ce que c'est que c'est.
Ah oui, sauter le taureau, ça c'était pas. C'était une autre affaire, ça. Il y avait je ne sais pas qui l'avait fait, j'ai jamais su qui avait fait ça, mais il avait fait une espèce de dummy qui ressemblait à une vache. Elle était structurellement, était bien faite, elle était faite en pic, tout bien soudé. Il y avait quelqu'un qui avait mis, je me rappelle, il y avait du bois qui avait été comme fait comme un derrière de vache. Là. Il y avait une peau de vache qui avait été mise par-dessus. Et puis en arrière, bien naturellement, c'est que le vagina, le vagin, c'était une boîte que tu mettais en dedans. Le vagin lui-même, c'était fait avec une grosse pipe, mais c'était pas une pipe de plastique, là, mais c'était une pipe.
T'as une pipe en fer.
Non, elle était en rubber comme.
Ah oui.
Elle était en rubber. Il avait mis une valve là-dessus ça. Après ça, il avait mis excusez-moi, comme un inner tube, là, mais c'était fait mieux, en meilleure qualité. Il rentrait en dedans, puis il le revirait à chaque bout, puis il mettait du élastique alentour. Puis dans ça, il mettait de l'eau chaude. Ce qui était la valve, là. Il faisait mettre de l'eau chaude pour que. Ça, c'est peut-être la même température qu'une vache. L'eau, tu ne la laissais pas dedans, je pense. Je pense que tu enlèves l'eau. Après ça, tu soufflais. Après ça, on mettait de l'air dans ça pour que ça fonctionne, pour que ça renforcisse. Et puis, on mettait un petit peu d'huile pour que ça aille bien. Fait que le bœuf, lui, ben, on dit que M. Tagore, il faisait sa job, mais il n'était pas trop regardant qui embarquait dessus.
Et donc, quel signal donnait le taureau qu'il était prêt, là?
Oh, mais tu as déjà vu ça. Un taureau, il est prêt, il embarque. Et puis, ça y est.
Et c'était tous les combien, la saillie du taureau, là?
Comment?
Combien de fois, je ne sais pas, par semaine?
Oh, bien, un taureau, d'habitude, s'il allait bien, il donnait un coup, puis le petit vial, là, comment gros que ça pouvait être, excuse-moi, comme une belle grosse ball-pen, là, à moitié de ça. Des fois, un peu plus. Puis avec ça, ben, tu pouvais diviser ça dans plusieurs, peut-être une vingtaine, une trentaine d'autres viales, quand tu le mélangeais avec du jaune 2. Là. Parce que tu as besoin d'un sperme, mais pour faire la job, mais tu pouvais le diviser quand même. D'autres choses. Il y en avait un microscope. Le microscope, ça, c'était pour avant de mélanger la semence, il fallait savoir si la semence avait du bon sang. Il fallait qu'il y ait un certain nombre de sperm count.
Oui, compte de sperme.
Ouais,
et là, votre père les comptait?
J'avais appris. Je l'ai fait souvent. Là,
ça. Ah, vous l'avez fait souvent?
Ah oui.
À partir de quel âge?
Ah, je devais avoir à peu près 15-16 ans, peut-être, quand j'ai commencé à faire ça. Le père allait à la chasse, puis moi, c'était ma job de faire ça, avec mon frère Fernand. Yeah. Il y a des fois, le bœuf, les bœufs, ils donnaient deux coups. Le premier coup, des fois, c'était un petit peu plus d'urine, mélangé un peu. Après ça, il fallait le faire remarcher, puis comme, Il y a des fois aussi que il y avait une couple de bœufs qui sautaient sur l'autre bœuf. Il y avait un bœuf qui était pas mal docile, là. Le père, il avait fait, c'était comme en coin de l'étable.
Il y avait deux. C'était deux bords, là, c'est comme un V. Là. Le but rentrait là-dedans, puis tu comme le tenais en serre. Puis là, l'autre but sautait par-dessus. Le but. Mais là, il fallait que tu sais, là, avec. Ouais. Comment tu l'appelais ça, cette affaire-là? Il y a devant un nom, pour ça, je ne m'en rappelle plus.
Ben, moi, dire, quand on a fait sauter des buts, le même jour, des jeunes buts, ils disaient c'était une capote. Et puis, parce qu'on avait fait sauter, il y en avait là, qui voulaient avoir les buts, puis être certain que la semence était bonne. Puis on faisait sauter des vétérinaires dans la maison. Okay. Des jeunes taureaux. Hein. Yeah. Puis on les mettait. Ils disaient, des vétérinaires, là, Jean Bouffard, là, ils appelaient ça la capote. Tiens, la capote. Puis là, ils nous préparaient. Tu sais. Puis c'est comme ça qu'ils faisaient chez vous. Là.
Mais donc là, il y avait un danger, quoi. Enfin, je veux dire, l'animal pouvait ruer.
Ah, mais quand il sautait l'autre, là, là, il n'y avait plus de danger parce qu'il était plié que ses deux pattes d'en arrière. Mais c'est quand il débarquait qu'il y avait le danger.
Quand il débarquait. Quand il voulait qu'il se rentre le. Un bon canadien, il fallait qu'il se rentre la manche là-dedans, lui-là. Là. Puis il fallait y aider. Puis quand un bœuf vient, ça donne un coup, mon homme. Il bouille. Ça, c'était dangereux aussi. Il y en avait comme ça un max. Ça. Quand il te lâchait un coup, il se vincent, mais tout revolait.
Alors, comment se faisait le décompte? Le décompte quand vous aviez le microscope? Pourriez-vous toujours me décrire un peu la procédure à cette époque?
Oui, on prenait la semence, on la mettait sur une petite vitre, là. On mettait une goutte de semence, après ça, une autre petite vitre par-dessus. Je me rappelle, ça l'aplatissait, là. Puis là, tu rentrais en dessous du microscope. Puis là, ben, le père m'avait dit que c'est faire dans ce temps-là. Il fallait que je compte. C'était fait par des petits coraux là-dedans. Là. Puis il fallait que tu comptes comment c'est qu'il y avait du sperme.
Par coraux.
Puis il y avait un nombre qui disait, bien, ça c'est correct.
Vous vous souvenez un peu?
Ben, je me souviens. Je l'ai fait assez souvent, mais. Je dis, tu veux savoir comment c'est que le sperme compte, c'est supposé d'être?
Oui.
Non, je m'en rappelle pas.
D'accord.
Non.
Très bien. Et puis j'ai généralement, le compte y était? Vous vous souvenez de ça?
Oui, 90% du temps, tu n'avais pas de misère. Des fois, il y avait un bœuf qui n'avait pas. Le sperm count n'était pas assez haut. Tu le remettais de côté, tu en prenais un autre. Puis peut-être la semaine d'après, il était correct. Il y en avait qui étaient pas. Le sperm count n'était pas si bon que les autres. Il y en avait qui étaient très bons. Il y en avait que. Fallait tu ramènes le bœuf, puis tu lui redonnes d'autres. Je ne sais pas, si c'était d'autres moulés ou. Fallait que tu lui redonnes la force. Il y en a qui les gardaient. On les gardait quand même, mais il y en avait des meilleurs que les autres.
Alors, le bœuf, il pouvait donner tous les combien? Quelle était la fréquence de la
saillie? Ah, OK. Là, c'est une bonne question. Il y avait à peu près 8 bœufs là-dedans. Je pense qu'on le faisait sauter à tous les 2 jours. Quelque chose de même. Puis, peut-être, là, je dirais, une fois par semaine. Ça a-tu du bon sens?
Il me semble que c'était, je sais qu'une fois, il y avait un fil des, tu sais, chez vous, là. Il me semble qu'il disait c'était 3 jours, tu sais, mais...
À tous les 3 jours.
Ouais. Mais seulement que si le taureau, avant que sa semence était bien vivace, là, il pouvait la ramener à 2 jours.
OK.
C'est ça qu'il nous avait... Ton père nous avait dit, là, cette fois-là, là, tu sais, il nous montrait... On allait regarder le microscope et tout, là. Et puis, tu sais, il y en avait, c'était 3 jours, puis il y en avait d'autres, c'était 2 jours. Parce que des fois, il peut en avoir un, tu sais, qui ne fournissait pas de la bonne semence. Il fallait que tu prennes un autre.
Puis... Yeah, OK. Ça, je me rappelle de ça, mais je ne me rappelais pas exactement la séquence, mais tu...
T'as deux à trois jours.
OK. Yeah.
Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il fallait leur donner comme type de moulé? Est-ce que vous la prépariez vous-même ou ça venait tout préparer?
Non, ça, il y en a... Il y avait des sacs, là, de... Des sacs spéciaux. Moi, j'appelais ça du Spanish Fly, qui donnait dedans, là. C'est une petite portion, t'as pas eu bien grosse, celle-là, t'as près de 2-3 cuillerées, là. Tu donnais ça, je pense, la journée avant. Là, il venait fou comme balai, là, à ce temps-là. Il était prêt à sauter, après ça. Je sais pas ce que c'était, là, mais...
Alors, encore une fois, pour que ça soit clair, est-ce que tout ce que les taureaux mangeaient venait déjà préparé?
Ben, la moulée, ça venait de Kerry, mais là, il y avait du supplément. Supplements, là, dans des sacs, là, que tu mets là hein, pour lui donner. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Peut-être des vitamines, peut-être?
Il n'est pas probable, tu sais, puis... Puis le foin, c'est le même foin que...
C'est le même foin que les autres.
Oui, le foin, puis... Mais là, je sais que la moulée a amené à Kerry, là, mais après ça, mais dans la moulée, ben, qu'est-ce qu'il y avait dans les sacs? Je ne m'en occupais pas, dans ce temps-là, ça pas qu'il s'occupait de ça, mais peut-être comme... Il doit y avoir des vitamines ou des suppléments de calcium ou je ne sais pas quoi. De...
Pour des comment je dirais ça, des primés, comme on dit, pour les mettre...
Des gardes en santé aussi, ouais. Veut dire, ces pauvres bœufs-là, quand même, qui avaient l'exercice, ils étaient pris quand même, c'est pas comme la nature, c'est pas dehors. Ils étaient pris dans des pennes, des porcs, des attachés, comme des convicts.
C'est ça, des prisonniers. Quoi,
des prisonniers, oui, oui. Ah, ouais.
Alors, là maintenant... Revenons encore à votre père. Bien. Donc là, il y a le compte de sperme, vous séparez avec le jaune d'œuf,
oui.
Vous préparez tout ça dans des petites fioles.
Oui.
Et puis après, vous disiez que votre père avait tout un district. Alors, quelle était sa responsabilité une fois qu'il y avait les petites fioles?
Voilà, la petite fiole était marquée si c'était le bœuf Cymax ou le bœuf Ajax ou le bœuf... Windex, qui s'appelait?
Windex.
Oui. Ça fait qu'il y avait des clients qui voulaient avoir un certain bœuf. Je sais que Denis, ici, je pense que tu aimais Cymax, toi.
Cymax, on a pris des gros avec, puis il y avait Ajax.
Ajax.
Et puis,
c'est à cause du
sperm council ou bien c'était à cause de l'animal?
C'était l'animal, hein. C'était pour ça, c'était le type. Tu sais, on regardait pour le type, hein. Puis Ajax, il a un beau type. De vous, c'est ça qu'on regarde.
Mais alors, et pourquoi tout le monde ne prenait pas le même sperme, M. Joubert?
Ben, oui, tu sais, il y avait Saint-Auro. Puis des journées, il était obligé d'en faire sauter trois pour avoir assez de semences, parce que des gens de Stonewall venaient chercher la semence.
Dominion City.
M. Cameron de Dominion City, oui.
Il allait à Grand-Tall, il allait à Clipelt, puis il n'y avait qu'il ne voulait pas avoir. Tout ce qu'il voulait avoir, hein, pas être obligé de garder un taureau du moment que la vache était mise en veau. Mais il y en a d'autres, ils regardaient le taureau pour la conformation de la bête. Nous autres, c'est ça qu'on regardait, pour avoir des beaux animaux. Et puis, mais il y en avait là, c'était pas important ça.
C'est juste
il voulait juste avoir la...
L'avoir du lait.
Oui,
avoir la vache, un
petit veau pour que la vache continue à donner du lait.
Et puis, ce veau-là, il peut être... vendu à un commerçant qui les élevait pour faire de la viande avec. Fait que, tu sais, le monde n'était pas tout pareil. T'avais du monde qui voulait avoir quelque chose de numéro un, mais il y en avait d'autres, ça n'avait pas d'importance.
Alors, pour vous, c'était important d'avoir de la première qualité, quoi.
Définitivement. Et puis, c'était pour ça qu'on, quand ils recevaient des taureaux, là, quand ils échangeaient, qu'on allait voir les taureaux pour être. Qu'est-ce que c'est qu'il donnait, puis le...
Mais alors, pour que vous teniez à avoir Cymax, est-ce qu'il fallait que vous vous arrangiez avec M. Hébert?
Oui. Oui, on disait, quand on l'appelait, là, on disait, on va avoir tel taureau. Ça, c'est entendu, il fallait dire le taureau qu'on voulait avoir.
Je pense que quasiment tous les clients disaient.
Oui.
Parce que...
Je pense pas qu'il y avait quelqu'un qui disait juste, viens brûler une vache. Il me semble que sur sa liste, il y avait au bout, là, c'était tout le temps.
Oui, moi je dis, en dernier, là, oui, surtout quand il y a switché à la chose à geler, là, la
oui,
semaine
gelée.
Là, le monde était plus commencé à plus se réveiller, tu sais.
Je pourrais te demander une question, Denis.
Oui.
Il y a une affaire que peut-être que j'aimerais savoir moi-même. Quand les bœufs sont venus à Saint-Pierre, la demande va être par les fermiers. Parce que est-ce que les fermiers trouvaient que c'était trop mal commode d'emmener un taureau au prochain voisin? Ou pourquoi là, vraiment? Il y en a qui avaient deux, trois vaches, hein?
Oui.
Fait qu'ils voulaient pas avoir de taureau dans le cours. OK.
Puis c'est ces gars-là que ça n'a pas d'importance quel taureau rendu qu'ils mettaient la vache en veau.
Okay.
Ça n'a pas d'importance.
Mais est-ce que les, comme l'étable, comme M. Lafrance,
Est-ce que c'était à cause que les fermiers demandaient pour ce service-là? Moi, j'avais rien que 6 ans à ce temps-là, je ne sais pas. Là.
Mais ça a été établi, c'est pour que la France voulait faire l'improvement sur des troupeaux. Tu sais, dans ce temps-là, là, tu avais un groupe de monde qui prenait élevait un taureau de la meilleure vache, là, puis bridait avec ça. Ouais. Ça, c'était bon rien, hein, parce que des fois, il rentrait dans la. Comment. Le lit sans mélange, sans trop proche. Et puis là, Joe Lafrance, mais tu sais, ça s'établissait dans l'Ontario, puis là, il a travaillé avec le gouvernement pour avoir ça. T'sais. Fait que, puis d'un coup, à un moment donné, il nous a dit, il y a de la coopérative, il appelait ça une coopérative, il a dit, ça va marcher, on va voir les taureaux. Puis là, il est arrivé, les trois premiers, c'était trois taureaux de Ribondale Farm. Il y avait Simax et Jax, puis Guandax. Et puis après ça, là, il n'y a pas un de lui, il s'est en allé aux États-Unis, là, il venait de Rosser, de chez Oldman.
Mais ça, c'est Simax et Jax, puis ces gars-là, est-ce qu'ils faisaient la même job là-bas, Rock, à la femme, là? Rock, quelle femme? Quelle
Raymond
femme?
Dale Farm.
Raymond Dale Farm. Est-ce qu'ils faisaient ça, là, ces gars-là? C'est ça qu'ils faisaient, ils sautaient?
Non. Ben, vois-tu, ils ont jeté de là. Parce que c'était des bœufs qui avaient été préparés par le Québec. La Raymondale Farm était au Québec. Oh, bon. Et puis, il avait été préparé au Québec pour s'en aller dans le centre à Saint-Hyacinthe.
Okay.
Et puis, il y avait un surplus de taureaux. Ils sont venus à Boulogne, ouais, ces trois taureaux-là. Et puis, après ça, il y en avait eu de l'Ontario, là, je ne me rappelle pas de leur nom. Là. Je sais qu'il y avait M. Charrière à Notre-Dame-de-Lourdes, là, à un moment donné. T'as dans la vieille étable, puis il y avait un surplus d'un, puis ils l'ont envoyé là. Et puis il a gardé que canet, puis après ça, il est revenu quand ils ont bâti, là. Je ne me rappelle pas de son nom, là, ce bœuf-là. Mais je me rappelle, M. Corrière avait deux vaches excellentes de ce taureau-là.
M. Denis Joubert a gagné gros des prix avec des animaux. Il est un des fermes spéciaux, ça, dans le temps. Tu n'as pas ça, tu as-tu enregistré pour ça?
Ah oui.
All registered.
Enregistré.
Alors, quand Joe Lafrance s'est arrangé pour qu'il y ait ces taureaux spéciaux, c'était une bonne nouvelle dans la région.
Ah oui, c'était une vraie bonne nouvelle dans la région. Il n'y avait qui ne croyait pas à ça, mais c'était une bonne nouvelle dans la région parce qu'on savait qu'il y aurait de l'improvement sur le, pour avoir de bons animaux pour ça se continue.
Alors, quand on regarde, le timing était quand même quelque part extraordinaire. D'un coup, M. Hébert, c'est la catastrophe. Il y a la tuberculose en 48. Et puis après, bien, le timing est bon. Il y a les taureaux qui sont disponibles.
Ouais,
et
ouais.
Il lui propose une offre qu'il ne peut pas refuser.
Oui, justement. Il ne peut pas refuser ça. Lui, ça prenait quelqu'un pour le prendre. Et puis, lui, que c'est à fait nettoyé par la tuberculose, l'étable.
Oui, yeah.
Et puis là, ça y donnait quelque chose, ça y donnait un revenu. Hein? C'est un salaire, et puis ça y donnait un revenu. Fait que puis ça se fusait pas.
J'ai dit 48 de tuberculose, peut-être avant, je sais pas, là, mais pas l'IOB avant quand même, je pense.
Dans ces années-là.
Dans ces années-là, oui. Yeah. Je me rappelle quand il y avait les animaux, quand il y avait les vaches dans l'étable, oui. Fait que.
Tu te rappelles dans ces années-là, parce que c'était nous, en 30?
Non. 39.
39.
Yeah. On a aussi eu père à l'aide de Paul Turenne. Paul Turenne a travaillé longtemps avec mon père. Mm-hmm. Si tu regardes dans le livre de la paroisse, tu vas voir un portrait du bœuf Simax avec Paul Turenne.
Dans le nouveau livre?
Oui. As-tu le nouveau livre?
Oui. Yeah. As-tu?
C'est juste pour te donner une idée de ce que le bœuf avait l'air comparé à l'homme. Puis M. Turenne, c'est pas un chicot.
Alors, il avait l'aide de Paul Turenne parce que tout seul, il n'y arrivait pas?
Il avait l'ouvrage. Le père avait aussi du terrain. Il devait avoir, dans ce temps-là, peut-être qu'il avait monté à 400 autres. Fait qu'il voulait qu'il fasse...
Mais il y avait plus de vaches, c'est ça?
Non, il n'y avait plus de vaches.
Il n'y avait plus de vaches. Donc,
il faisait du breeding, puis il faisait la récolte.
Alors, avez-vous participé à la récolte?
Ah oui.
Bon, alors, parlons un peu des récoltes pendant que M. Joubert, lui, va trouver ce qu'il faut.
OK.
Alors, qu'est-ce qui se met en priorité?
Oh, il se met du blé, du lin, de l'avoine, il se met, yeah. Des fois, il se met de la, comment s'appelle ça, sweet clover, du...
Le trèfle, yeah. Odorant.
Oui.
Ah oui, alors là, donc, on me montre à la page 65 du livre sur Saint-Pierre-Joly, une photo de Paul Turenne à l'entreprise Rat River Breeding, et on voit qu'effectivement, Paul Turenne n'est pas très grand par rapport au taureau, et on comprend maintenant mieux toutes les appréhensions de Maurice Hébert. Il faut le reconnaître. Voilà. Et puis c'est un bœuf qui est vraiment un taureau qui est bien plus blanc que... Il est de race Holstein.
Holstein, oui. C'est un Holstein, yeah. T'as tous des Holstein, Bulls.
T'as tous des Holstein.
Yeah. Là, c'est une bonne race. Je pense que la Holstein est une race favorite
pour le lait.
Puis pour aussi être capable de s'accommoder pour, dans notre climat. Hein. You know.
Donc, la priorité quand même pour votre père. Bon, une fois qu'on est céréaliculteur, on est quand même occupé à certaines périodes de l'année, et puis à des périodes plus tranquilles, mais pour ce qui concerne l'insémination artificielle, c'était à l'année longue.
Oui.
Est-ce qu'il y avait des périodes plus soutenues que d'autres?
Probablement, mais c'était 365 jours par année. Ah oui, le dimanche, comme... Ah oui.
Ah oui, d'accord.
Hein. Ah oui, ah oui, ah oui.
Regarde, c'est...
Alors voilà, alors justement, donc dans le même livre, M. Joubert me montre à la page 74 du livre sur Saint-Pierre-Joly, eh bien, on voit très bien la ferme, voilà, l'étable qui a été construite par le gouvernement au début des années 50. Est-ce que vous avez une idée des revenus que ça a pu générer pour votre père?
Bien, comme toute autre chose, Monsieur Joubert peut-être peut m'aider sur le coût que ça coûtait au commencement, mais moi, quand j'ai fait du breeding, c'était alentour de 2 $ de 2 $ C'est trop bon marché, ça?
Ça a commencé à 5.
5
$ Je veux pas te reprendre, là, Maurice.
Oh, c'est quand je travaillais dans la shop, ça.
Ouais. c'est que ça a monté, ça a commencé à 5 $ quand ils ont mis les trois taureaux ici.
Oh.
5 $ là, puis la chasse.
5 $ dans 50?
Oui.
Oh. Ça coûte cher, ça?
Ben, moi, je me rappelle, c'est ça que. À cette heure, tu sais, il ne faut pas oublier, il y avait certains taureaux qui avaient une prime dessus. Puis nous autres, tu sais, on se servait de ces taureaux-là, là, comme Simax, là,
mm-hmm.
Il y avait une prime dessus.
Okay.
Puis il y avait un autre. Gwendax n'avait pas de prime dessus. Peut-être lui, il était à 2 piastres. Mais je sais que.
Oui, sur ça, je ne peux pas me rappeler trop, là. Peut-être ma mère pourrait s'en rappeler parce qu'elle faisait les livres, là, mais c'est pas quelque chose. C'est comme d'autres choses. Ça, c'est peut-être commencé à 5 piastres aujourd'hui, que ça coûte pour un fee, breeding fee, là, avec la semence gelée. Ça peut coûter quoi? 50, 60?
Ça dépend de ce que c'est. Moi, quand j'ai eu ma tinque à la maison, là, j'ai payé jusqu'à 50 piastres.
50 piastres?
Oui. Puis ça, c'était des années 78.
Wow.
Tu sais, dans ce temps-là, là, ça a remonté.
Yeah. Mais vous étiez toujours quand même très content de payer. C'était pour vous un bon investissement?
Ben oui, parce que on vendait beaucoup, nous autres, de bêtes. Et puis, quand on avait les gens qui revenaient, puis revenaient, chercher des taureaux à la maison, au nom des femelles, et puis qui revenaient, puis qui nous téléphonaient. On avait des clients à Passlake en Ontario, puis à une autre place, au Report Arthur, là, il y avait deux coins qu'il y avait. Et puis on vendait, là, il y avait un type qui nous téléphonait, m'en vais chez vous à Saint-Taureau de tel âge, et puis on va avoir ça. Et puis, oui, on l'a. Il l'a cherché, puis on a fait un bon prix. Après ça, j'avais parti avec 13 têtes, moi, pour aller mener ça dans le nord d'Alberta, à Fairview. Mm-hmm. Ben oui, on avait vendu 12 têtes, un taureau, puis 11 femelles. Mais il y en a une qui avait aidé avant de partir. J'en avais 13 dans le fond. Puis j'avais été mener ça. J'avais parti le lundi matin, le mardi matin, puis on a débarqué les animaux à minuit le vendredi soir.
Bon, alors là maintenant, de 5 $ au début à 50 $ 30 ans plus tard, bon, très bien. Qu'est-ce qui arrivait quand ça ne marchait pas? Est-ce qu'il y avait une garantie?
Ben, ça, non, il n'y avait pas de garantie. C'est qu'il nous donnait 3 services pour ce prix-là. Puis après ça, on le payait. Et puis assez souvent, il y avait des vaches qui prenaient pas. Il fallait mettre le taureau dessus. Pour avoir un petit taureau pour le mettre là-dessus. D'autres, assez souvent, on avait des taureaux là, qu'on élevait pour vendre. Puis ça nous donnait une chance de dire au gars, ben, il est bon.
Bon. Ben. Alors maintenant, parlons des services. Qui faisait le service?
Tu veux dire?
Bien, qui s'en occupait pour l'insémination?
C'est son père.
C'est mon père. Mon père. Donc, on vient de parler de 5 $ qu'on avait trois fois qu'on pouvait. Okay. Premier coup, là, si ça ne marchait pas, il revenait un mois après, si le client m'appelait, il appelait, puis il disait, mais je pense que ma vache est encore en chasse, là, elle n'a pas pris. Mais ça, ça coûtait. Mais si tu avais 3 services, puis ça coûtait 5$ le premier service, tu ne fais plus grand argent au bout du 3e service, parce que tu ne cherchais pas à personne. Il fallait qu'il aille avec son auto, son truck, son gaz, son temps. Fait que c'était dans mon père, de quand tu bridais une vache, que tu fasses la job comme il faut, parce que c'était le mieux que tu pouvais faire. Il y a des vaches qui étaient dures à brider en Moses. Il y en avait des vaches là, que c'était. Moi, je n'étais pas bien grand dans ce temps-là. Là. Putain, j'avais une misère des fois. Puis des fois, il y avait des vaches qui allaient très bien. Faut pas oublier que moi, quand j'ai commencé.
Alors, vous l'avez fait aussi?
Oui. Moi, quand j'ai commencé, j'avais pas la pipette, je me servais du gant.
Ah, du gant?
Oui.
Ah, tu commençais à l'appuyer.
Avec le
gant. Ça
va pas le tube, non.
C'était juste la pipette et puis le gant.
Yeah. Il y avait. Au commencement, c'était un tube qui rentrait dans la vessie, dans la vagina.
Ouais.
Et puis, avec une petite flashlight, je me rappelle, il y avait une petite flashlight au bout du tube, là, pour essayer de le voir dans le fond. Puis il y avait une grande pipette. La pipette, elle peut-être avait 18 pouces, peut-être. On mettait la semence là-dedans avec un petit tube, là, un petit. Tiens, comment on appelle ça, là? Comme un bout de conche-goupe, là. Une pompe, une petite pompe en rubber, là, tu sais. Et puis, là, tu envoyais la semence au col de la matrice, là. Tu essayais de le mettre au plus proche possible. Ça, c'était dans les premières années. Moi, j'ai pas fait ça. Mais quand j'ai commencé à faire du breeding, parce que j'ai commencé à faire du breeding après que j'avais 16 ans, parce que je pouvais avoir une licence pour mener. Sans ça, je pouvais pas y aller.
Ah oui, ben oui.
Tu te rappelles-tu de ça?
Ah, ben, ça, c'est la pipette, ça. C'est la flashlight, ça.
C'est ça, la flashlight qui est allée au bout du. Alors là, c'est M. Joubert qui vient avec un. Vous venez avec quoi exactement, là?
Ça, c'était la lumière qui servait quand il servait du tube pour faire le brisage artificiel. Il mettait le tube dans le vagin. Il clipait la lumière après.
Là, vous me montrez une petite lampe de poche tout à fait étroite, peu près 20 cm de long.
Oui. Et puis là, comme la clip est à mancher, là, ça rentrait dans. Pareil comme si c'était une bouteille là-dedans, là, comme ça, là. Et puis, il était clippé, puis là, il regardait dedans. Puis là, avec sa pipette, là, il conduisait à ce que c'est qu'il voulait qu'il mette la semence.
Voilà, alors ça, c'est la procédure que vous n'avez pas utilisée.
Non, moi, je n'ai pas utilisé. Non, j'ai vu père faire ça souvent, mais je n'étais pas assez vieux pour aller brûler des vaches. J'étais assez vieux pour nettoyer les tables, puis faire tourner les bœufs. J'appelais ça faire tourner les bœufs, là, mais. Et quand j'ai commencé à breeder, c'était fait avec un gant...
Un gant de plastique.
Grand plastique, là, puis tu rentres dans le rectum. Puis tu as aussi une pipette. La pipette peut-être la même longueur.
Oui, la même longueur.
Puis là, tu vois à travers du col de la matrice.
Oui,
puis tu rentres. C'est ça qui est dur, là, quand tu rentres, tu passes à travers.
Les trois nœuds, là.
Les trois nœuds, là, oui.
Et donc, chaque vache était différente?
Oui. Il y en avait qui étaient... Les petits tors étaient durs à faire. Tu prenais une vache qui avait eu plusieurs veaux. C'était quasiment le fun. Ouais.
Quand, ça c'est ma femme qui avait acheté ça, ce flashlight-là. Et puis, quand.
Il y avait des vaches que. Il y avait des vaches qui m'ont pas ça pendant tout. Je ne sais pas si c'était à cause que. Il n'était pas tout à fait en chasse.
Ben, c'est ça qui arrivait. Hein. Tu vois-tu, des fois, je fais cuillère qu'elle l'étape, puis elle l'étape pas. Hein, tu sais. Puis, étais-tu passé? Ben non. C'est trop vite. Tu sais, ça, c'est une question qu'il faudrait que tu te demandes. Hein. C'était une étude, ça, d'étudier. De...
À tous les 28 jours, à peu près, que c'était, ça venait. Il y a une autre chose aussi que peut-être on a oublié de vous dire, c'est quand on rentrait. Disons que M. Joubert, en exemple, demandait pour le service, et puis mon père allait. Je sais que, je ne sais pas, je ne me rappelle pas de Denis, comment ça marchait, mais moi, je voyais, il fallait que la personne tague la vache. Puis, tu rentres dans une étable, puis tu avais 20 vaches ou 30 vaches, puis là, tu saches quel qui c'était. Et puis, il y en avait qui avaient différentes méthodes. Il y en avait qui mettaient une corde dans l'air avec un morceau de guenille, ou bien il y en a qui attachaient un ruban après la queue de la vache. Je pense que c'était à peu près la méthode la plus...
La plus juste,
oui.
En mettant une corde à bille,
oui. Après la queue. Pour être savoir, c'est ça là où tu breed. Quand tu rentrais dans l'étable, tu regardes, tu n'es pas trop certain où tu allais.
Parce que le fermier n'était pas forcément là?
Ben non.
Il y a bien du fois, le fermier n'était pas là.
Il rentrait. Moi aussi, les fermiers nous connaissaient. On rentrait dans la cour, on allait breeder la vache, et puis je pense pas qu'on laissait aucun bill. Je pense que le père envoyait un bill à la fin du mois, je pense.
Il laissait, comme d'autres, les vaches enregistrées, là, il nous laissait une forme. Quand on faisait enregistrer, il fallait avoir cette forme-là. Il hein, fallait qu'il écrive cette forme-là. Et bien, c'est souvent que tu payais une fois par mois.
Et puis, donc... Est-ce qu'il y avait des gens de la région qui ne l'utilisaient pas, ou c'était quand même... Il n'y avait pas de concurrence, quoi. Il fallait faire affaire avec M. Hébert, ou son fils.
Si tu voulais avoir la artificial insemination, oui. Mais comme Denis a dit tout à l'heure, il y a des fois que l'artificial insemination ne marche pas tout le temps. C'est comme il disait, si ça faisait trois fois que la vache avait été breedée, et puis... Ça ne marchait pas, hein. Il servait du bœuf. Le bœuf, des fois, faisait un job bien mieux que l'artificial insemination.
Ben, tu sais, comme le monde disait, hein, c'était plus naturel. Puis je ne sais pas pourquoi, parce que quand le bœuf ne sautait pas une vache, c'était pas en saison.
Ouais.
Et puis, tandis que nous autres, on pouvait la servir avant ou après.
L'affaire d'aller avec la pipette, puis se rendre tellement loin, c'était pour essayer d'utiliser deux jours avant ou deux jours après, dans la période de la vache, je crois. Si on était avant le temps, la semence, elle attendait, était là pour attendre. Si on était en retard, c'est la semence qui rejoint pour faire pour pogner l'œuf. Ouais. C'était comme pour essayer de... Aussi, comme j'ai dit, à peu près deux jours avant, deux jours après. Ça faisait comme... Sans ça, quand le bœuf sautait, la semence, ça prenait encore un grand bout de temps pour passer à travers la colle de la matrice. Fait que nous autres, on faisait ça, on se rendait direct aux œufs, hein? Comment t'appelles ça?
L'utérus,
oui.
Alors, il fallait aussi qu'il y ait un rapport de confiance quand même avec le fermier, puis que le fermier, il dise, bon, là, c'est le temps.
Oui.
Parce que si vous faisiez l'opération pas au bon temps, ben,
oui.
Elle pouvait rater, puis...
Ah oui, c'est...
Alors, est-ce qu'il y avait des fermiers qui étaient plus doués que d'autres?
Oui, oui. Il y avait des fermiers, des fois, qui pensaient que le vache était en chasse, puis il l'était pas, ou bien que peut-être... ça doit marcher ces deux manières, ça, cette affaire-là. Il y a... La personne qui insémine, avec mon père, il y a la vache, puis il y a le fermier.
Il y a le fermier, ça fait tout bon.
Yeah.
Oui, donc clairement, on est en train d'établir que c'est une affaire à trois, ça.
Ouais, c'est oui, une affaire à trois. C'est une affaire à trois, oui. Parce que tu rentres dans une étable, tu ne sais pas quelle vache qui est en chasse. Il faut que c'est le fermier qui t'aide.
Il faut que le fermier dise qu'est-ce que tu sais.
Ben oui. C'est moi, quand je rentre dans une étable, je ne sais pas quel que c'est.
À part que
c'était
en été, une fois en été, tu gardes seulement comme la vache.
Une vache dans l'étable, ouais, c'est dans ça.
Mais l'hiver, il faut la mettre, faire la marquer.
Et encore une fois, quelle est la meilleure manière pour vous de marquer la vache?
Attacher la queue. Surtout, il a attaché ça avec la corde à bille.
La corde à bille. Mettre une corde à l'entour.
Je faisais un beau nœud. Je pouvais l'enlever après ça.
Et puis à cette époque-là, est-ce que les vaches ont des noms?
Bien certain.
Oui.
Nous autres, il y avait tous des noms. Voilà. Parce que pour les faire enregistrer, il faut leur donner un nom. Il y en avait un préfixe. Nous autres, on portait le nom de Saint-Pierre au Stig. Et puis. C'était notre préfixe. Et puis, là, il y avait un autre nom, de différents. Comme on avait une, ça s'appelait Nadine, on avait un autre. Queen.
Mais parce que c'était des vaches enregistrées.
Oui.
Mais si ça n'avait pas été des vaches enregistrées, est-ce qu'il y aurait eu besoin d'un nom?
Je pense pas, non.
À moins pour des raisons affectives.
Oui, mais parce que l'autre fax est enregistré, il faut l'accueillir le nom.
C'est une bonne question, cela que tu demandes là. Je me demande des fois si. Tu veux dire que si le fermier, s'il voulait, il aurait pu dire, bien ça, cette vache-là, c'est celle-là la semaine passée.
Oui.
Là, ou le mois d'avant. Mais ça ne marchait pas de même. Tout le monde est honnête.
Ça aurait pu jouer de même, mais c'est. Ben.
Donc, il y avait une honnêteté de la part des
gens. Ah oui, une honnêteté.
Vous n'avez jamais douté de l'honnêteté?
Non. Non. Mais il faudrait que le fermier aussi nous donne un sens de sécurité. Je n'ai pas le nom, right là, mais je veux dire, quand tu rentres dans le cours, là, puis le fermier ne vient pas te voir, il faut qu'il. C'est comme. C'est une partie de la famille, you know? Comment tu appelles ça? You got a sense of belonging, hein, avec les deux, ces deux bords, hein? Ouais. Yeah. Ça va, c'est deux bons.
Et vous avez fait ça.
Bon, moi.
Votre père l'a fait toute sa vie d'agriculteur?
Ben, il a commencé. Ça a commencé en 1948, il y avait quand même 65 qui faisaient ça encore. 65, 66, 67. Quand il est venu au village, il faisait ça encore ça. Il a fait ça assez longtemps. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ils n'ont plus besoin d'un type comme mon père. Ça fait plusieurs années que là, les gros fermiers, comme même M. Joubert en dernier, avaient sa semence lui-même et puis ils buidaient les vaches lui-même.
Bon, alors, parlons un peu justement, on parlait tout à l'heure qu'il y a eu une étape à partir du moment où la semence était congelée.
Oui.
C'est ça qui a changé le jeu?
Oui.
À partir de quand est-ce qu'elle est congelée, la semence?
Pas longtemps.
Il y aura dans les 60, hein, au commencement des 60. Parce que quand on a bâti notre étable-là, on a bâti en 61. Et puis, il y avait la semence gelée.
Il y avait la semence gelée?
Déjà.
Tu veux dire qu'on sera débarrassé?
C'est des bœufs dans ce temps-là?
Oui.
Après ça, Paul lui a continué à faire du breeding avec la semence gelée aussi.
Qui venait d'où?
De l'Ontario.
L'Ontario. Il venait de Guelph.
Est-ce que vous vous souvenez de l'époque, est-ce que votre père a eu un soupir de soulagement quand il a pu eu besoin des bœufs?
Oh, probablement, il ne me l'a jamais dit, vraiment. C'était une étape que voulait tout le monde passe en travers. Je sais bien que c'était de l'ouvrage, mais quand les bœufs ont parti, il devait être soulagé.
Il devait
Il leur a dit, oui, il va être soulagé comme mal.
Et qu'est-ce qui est arrivé à l'étable où il y avait les bœufs alors?
Elle est encore là.
Elle a servi à quoi après?
Storage.
Storage.
Donc finalement, quand les bœufs partent, là, il a la technique, il a la réputation. Et donc, que les bœufs soient là ou pas là, finalement, c'est un embêtement en moins.
Oui.
Et les tarifs étaient fixés par le gouvernement?
Non, c'était fixé par la compagnie. La compagnie, les tarifs étaient fixés par de Guelph ou de Saint-Hyacinthe. Et puis, c'est à temps. C'était les gouvernements du Québec et de l'Ontario qui faisaient les tarifs.
Donc, est-ce que c'était les compagnies, à votre avis, ou est-ce que c'était les gouvernements ou les deux?
C'était les... à Guelph, là, il y avait une ferme expérimentale, et puis les autres collectaient la semence de Campbell, il y avait un étable, Guelph, puis il y avait une autre place, là, il y avait trois étables, il y avait les taureaux, puis ça s'en allait tout à Guelph. Puis Guelph faisait geler la semence et puis la mettait soit dans les pailles ou dans les bouteilles. Et puis là, eux autres qui déterminaient le prix. Soit Guelph, puis Saint-Hyacinthe faisaient la même chose.
Bien, alors revenons à l'épisode de Cymax. Moi, je veux du sperme de Cymax, mais une fois que c'est congelé, il n'y a plus de Cymax.
Non, mais il y avait d'autres taureaux. J'ai pas mon livre ici, je ne sais pas ce qui est, je l'ai perdu quand on a fait un camp. Je vous montrerai les noms des taureaux qu'on avait dans le temps. Et puis, là, on pouvait regarder un taureau. Il y avait un spécial qui venait de Saint-Hyacinthe, nous autres, on l'ordait. Il était cher. C'était pas toutes les vaches qu'on bridait avec ça. Et puis, il y avait un autre qui venait de Guelph, là, mais c'était un taureau qui était à Campbell. Après ça, il y avait un taureau qui était à Roseau River, à Roseau, Minnesota. Puis il faisait, le gouvernement canadien faisait venir. Ça, c'est un taureau qui appartenait, qui venait de Holtman de Rosser.
Holtman?
De Rosser.
De Rosser?
Oui.
OK.
Et puis, il s'en allait là. Vous l'aviez vu dans votre étable avant, ce taureau-là. Puis quand ils ont sorti les taureaux, là, lui, il s'en allait à Roseau River. À Roseau, Minnesota. Et puis, j'avais essayé, moi, d'avoir de la semence de là. On n'a pas été capable d'en avoir.
Mais,
parce que là, il y avait un contrôle dessus. Et puis là, au travers de Guelph, on est venu à bout d'avoir la semence. Les autres ont fait venir.
Oui, parce que là, vous aviez intérêt à surveiller quel était le bon taureau, là.
Oui, oui.
Et vous regardiez toujours quel était le résultat que ça donnait avec vos vaches.
Oui.
C'était sérieux, cette affaire-là.
Oui, c'était sérieux. Parce que tu peux prendre un taureau, puis tu peux baisser la production. Sa fille peut baisser la production. Puis nous autres, on voulait, quand la fille venait au monde, qu'elle remonte la production de la mère. Mettons qu'on avait une vache qui donnait 10 000 livres de lait, on voulait que la fille, quand elle sera adulte, donne au moins 12 à 14 000 livres de lait. Fait qu'il fallait choisir les taureaux. Il y avait un Saint-Hyacinthe, je ne pourrais pas me rappeler du nom, là. Et puis, on fait venir la semence de lui. Là.
Donc, vous vous attendiez toujours à ce que la fille donne plus.
Donne plus, produise plus que la mère.
Et puis, c'était une sorte de pari que vous preniez ou c'était calculé?
Bien, c'était... Quand il nous donna le pedigree du taureau, on avait espérance qu'on aurait, par exemple, s'il est à côté à 10 % de production de plus, on avait espérance d'avoir au moins 5 % de production de plus. Parce que la cote était toujours plus haute que... Et puis, c'est comme ça. Bon, mais quand on recevait là, le livre des taureaux, on étudiait notre... Puis si ça s'amenait dans le sang qu'on avait besoin, c'est lorsque c'est qu'on attaquait le taureau. C'est pour ça que... Le taureau qui s'est en allé à Roseau, là, qu'on aurait voulu continuer à s'en servir, mais quand il s'est en allé aux États, là, il voulait pas sortir, on ne pouvait pas sortir direct. Mais les autres la faisaient geler, puis la chipaient l'envoyait à Guelph. Là, Guelph le distribuait à travers le truck. C'était un camion qui venait, un camion avec les choses. Puis il y avait tout bien la valeur de bien du million de semences là-dedans.
Et donc, vous aviez vraiment des livres, des registres sur lesquels vous marquiez tout?
Définitivement, voilà.
Avez-vous gardé ce genre de registres?
Non, on ne les a pas gardés. C'est ça, c'est de la faute que je fais. Il n'y a rien
qu'une chose. Pourquoi vous ne les avez pas gardés?
Bien, vois-tu, on était deux frères. Hein. Moi, mon frère, en gardant une partie, puis moi, en gardant une partie. Et puis, quand lui, il a cassé maison, bien là, il s'est enlevé au village d'un appartement, fait qu'il n'y avait pas de place pour ça. Et puis moi, ça a été pareil quand j'ai vendu, acheté au village, j'avais pas la place. On a un trophée qu'on a gagné, qui est dans le club joli. Là, je vais le ramasser un bon coup, là, pour me l'emmener à 4 ans de suite qu'on a eu le premier prix des choses. Du DHI, là, qu'est-ce qu'il appelait, là. Mm-hmm. Et puis, il me donnait le trophée. Au bout de son gagnant 4 ans de suite,
il donnait le trophée.
Dans fait qu'on a le petit trophée-là, il est au Club Joly. Il était chez ma soeur, là, Jeanne, là. Puis quand ils ont vendu la maison, elle l'a emmené là. Et puis, l'autre jour, je disais ça à Aline Robidoux, je dis, je vais la voir, ça fait.
Alors, vous avez dit que vous avez donné une abréviation, le trophée de
DHI. DHI, c'était le contrôle laitier. Du Manitoba.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des fermiers qui ont gardé ce genre de registre?
Je douterais.
Mais pourquoi? Il n'y avait pas quelque chose de précieux? C'était oui, pas avoir preuve de la qualité du travail qu'on a fait?
Oui, j'admets ça, mais il vient un temps, on dira qu'on vient désintéresser, on regarde le changement qui se fait, on dira qu'on devient désintéressé à ces choses-là.
Très bien. Vous savez, j'aime poser des questions humaines un peu.
Mais c'est à partir de ça depuis deux jours.
Alors, est-ce que votre père ou vous-même aviez comme une certaine fierté à participer justement quand quelqu'un comme Denis Joubert recevait un trophée?
Oh, oui, certainement. Certainement, c'était une joie pour le père de voir qu'il y avait des clients qui aimaient les animaux, premièrement. Hey, puis qui sonnaient, puis surtout comme M. Joubert, c'était à propre. Puis c'est les animaux, ça gagnait des prix. Il y avait d'autres fermiers aussi, Denis, qui avaient des animaux enregistrés.
Il y avait Léo Carrière.
Léo Carrière.
Roger Dandonneau.
OK.
Il y avait René Préfontaine. Mais René, quand il a bâti son étable, là, après ça, il y a Détlé.
Oui.
Et puis.
Puis dans le bout de Grumtob, il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs.
Reinhard Dick.
Dick, John Wings.
John Wings, oui. Yeah. Dee Martin's Boys.
Il n'y a pas Dee Martin.
Mais c'est pas tout le monde non plus qui avait des animaux enregistrés. Ça, c'était d'ouvrage pour vous autres aussi. Puis là, tu gardes.
Puis après ça, ça. Toutes les. Tu sais, ça fait partie de l'association. Au Steam du Canada, ça nous coûtait de l'argent. Puis chaque fois que tu t'enregistrais un papier, en dernier, là, dans les dernières années, nous autres, là, ça nous coûtait 12 piastres pour faire enregistrer une bête. Ça nous coûtait 25 piastres pour faire partie de l'association.
Question que je peux te demander encore. La différence entre, une bonne vache enregistrée et une bonne vache qui n'est pas enregistrée, quelle différence de prix tu pouvais peut-être justifier sur?
Je vais donner une drôle de réponse. Pas parce que je veux mentir. Mais quand on a fait un camp, nous autres, t'as toutes des vaches enregistrées, 62 têtes, mais il y avait des jeunes là-dessus, nos vaches enregistrées ont enregistré 1900$ chaque. Puis j'aimerais, je sais pas ce que c'est, j'ai mis mon livre, je lis encore ce livre-là de la vente. Une semaine après, Jean-Marie Gagnon a fait un camp. Il était bien désappointé. Comment ça se fait qu'ils avaient vendu si cher que ça? Moi, je ne suis pas capable de vendre. Je me suis servi du brinet artificiel, mais je n'avais pas le papier.
Ah bon.
Puis il y avait une grosse différence de prix. Il n'y avait pas volé 10 000$.
Ah bon. Là, c'est une grosse différence, ça. Donc, c'est du simple au double. On est en train de dire
ouais,
que.
Oui, oui.
Il y a du 100%.
Oh, on est en train de dire la différence qu'une vache enregistrée quand vous avez fait l'encan, c'était en quelle année de nouveau?
78.
En 1978, ouais. Vous aviez obtenu presque 2000 $ pour une vache enregistrée, ouais. Ouais. Alors qu'un autre, comment ça s'appelait-il?
Jean-Marie Gagnon, il dit « j'ai pas fait 1000 piastres dans le temps ». Puis, il dit « je me suis servi du breeding artificiel, pareil comme aux autres, tout le temps, puis je commence à se faire ». Vous nous disiez souvent que ce papier-là ne valait rien, mais il dit « voilà, cochon ouais, ». Ouais. Nous autres, là, si on n'avait pas eu notre point enregistré, j'aurais jamais été arrivé en Alberta avec 13 têtes. Et puis, à un moment donné, tout d'un coup, on avait vendu un taureau à un type, puis lui, il l'a revendu. Puis là, il nous écrit, il dit, ce taureau-là, il est rendu à Montréal. Il dit, comment est-ce qu'on fait pour transférer le papier? Fait qu'on s'est rencontrés, puis on a arrangé le papier. Là, je suis allé à Montréal. Et puis, on a dit un mot, nous autres, on a dit, dans Saskatchewan, dans l'Alberta, puis... L'Ontario.
Alors, on a parlé tout à l'heure d'honnêteté, là. Est-ce qu'il y avait moyen de trafiquer ces papiers-là?
Il n'y avait pas pris la chance. Parce qu'il y en a qui ont essayé de trafiquer, puis quand ils se sont fait prendre, ils ont tout perdu. Si on avait été pris à trafiquer ces papiers-là, l'association aussi nous aurait tout coupé, nos enregistrements, puis nous aurait enlevé notre...
Donc, la pénalité était connue, là?
Oui, la pénalité, c'était ça. C'est que si tu... Un faux papier, là, tu pouvais te faire enlever tout ça, puis là, ça coupait tes revenus. Pour nous autres, ça a coupé les revenus, c'est un mot.
Donc, on n'y pense même pas, quoi?
Non.
Des fois, on voudrait, mais surtout pas, là. On chasse l'idée rapidement, là.
Non.
Parce qu'on connaît la pénalité.
Tu n'y penses pas. Moi, il y avait un inspecteur, là. On avait des inspecteurs d'ROP qui venaient à la maison.
Inspecteur de?
Pour il appelait ça ROP, c'est Record of Performance, les records pour... Puis ça, c'était le fédéral, c'était pas les autres qui venaient, là. Puis il nous contacte, il était dans l'Alberta, puis le gars avait mis une bouteille de lait dans sa manche, il tirait les vaches à main, puis il faisait couler le lait pour en avoir plus. Puis ils l'ont pogné, il a tout perdu. Puis ça, ce gars-là nous a assuré, c'était un Swede, là, un Suédois, et qui faisait un bon coup, il arrive à la maison. Il avait été prêté au Manitoba, puis il compte à ça. Puis on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et puis, il a tout perdu. Il a perdu tous ses enregistrements, puis il n'endurera pas ça. L'association ici n'endurera pas ça. Puis c'est pas rien que l'association ici, c'est n'importe quelle association. Des mots enregistrés, il y a des règlements qu'il faut que tu suives.
Alors, quel est le défi qui se présente, M. Hébert, une fois qu'on passe au sperme congelé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est différent après pour l'insémination?
Non, c'est la même chose, c'est la même manière d'inséminer. Peut-être je pourrais mentionner, c'est que si tu parles de 1950 puis tu parles d'aujourd'hui, il y a peut-être le même montant de vaches, mais les vaches sont toutes concentrées dans les grosses étables. Il faut réaliser que dans le temps de mon père, quand il a commencé, c'est que chaque personne avait besoin du lait. Mais tu n'allais pas au magasin tous les jours, tu n'allais pas chercher du lait dans le fridge. Ça fait qu'il y avait il y en avait une vache, deux vaches, trois vaches. Ça fait qu'il y avait des fermiers qui avaient partout. Il y avait du monde partout dans le temps. Tu t'en vas autour de Kerry, en arrière ici, il y avait tout le temps un petit fermier, un petit morceau quelque part. Aujourd'hui, il n'y a plus personne, mais il y a autant de vaches, mais ça mange surtout dans les grosses étapes.
Quand tu as commencé, là, ton père, moi, sur notre chemin, là, il y avait un laitier à toutes les chaînes. Hein? Tu sais, c'est toutes des lots de rivières de 12 chaînes de large. Puis il y avait un laitier là, à toutes sur toutes les lots. Et puis, ça va toutes des vaches. Et puis, après ça, quand tu le verras, là, c'est encore pareil. On les aime, mon oncle Adolphe, puis les curés. Ça va toutes des vaches. Aujourd'hui, il n'y a pas un troupeau de vaches dans ce bout-là. Ce que c'est qu'on reste là. à part qu'à les bons curés.
Il pouvait avoir des journées qu'il pouvait avoir jusqu'à 20 appels. Ça fait qu'il y avait des journées, des fois, il fallait que tu pédales.
Et c'était faisable?
Oui, mais c'est des fois, c'était des grandes journées.
Et puis, t'as pas pour rien, Paul Suren travaillait pour le jour de temps.
Paul Suren, on avait eu Léo Chouinard aussi. John Wins, le vieux chum, il a travaillé chez mon père pendant 9 ans. J'ai oublié son nom là. C'était un gentil monsieur. John Friesen. Ah oui. John Friesen, lui, il est en vie, il a pas assez proche de perdre sa vie avec un des taureaux. Taureau, il faisait faire le merry-go-round, là. C'était un dimanche. Et puis, les bœufs étaient tellement gros, là. S'ils donnaient un bon coup de tête, ils faisaient péter les anneaux. Ils faisaient péter n'importe quoi. Et puis, j'avais été avec mon père à la messe. On s'en revenait à la messe à 10 heures. On rentrait dans la cour. Puis, on voyait que John, il se faisait rouler par un bœuf. La seule chose que Père a faite, il est sorti de son auto, il s'est mis à crier d'une force terrible, puis s'est en allé direct au bœuf. Pas été nulle part, direct au bœuf. Le bœuf s'est levé la tête, il a laissé le gars à terre, et puis il est arrivé, puis il l'a pogné par l'anneau, puis il l'a rentré dans la table de même. Ça, je m'en tout le temps me rappelé de ça.
Vous avez quel âge, là?
Ouais, mais j'avais pas 16 ans encore, tout certain. Oh non, c'était à la vieille étable, ça. C'était à la vieille étable, ça, c'était avant 50.
Ça me fait penser, tu parles de ça. On élevait des taureaux, les autres. Hein. Et puis, un matin, ça, j'étais rentré dans l'étable, puis le petit taureau, il était attaché à l'autre bout de l'étable. Puis, il était allé au l'étable. Puis, il y avait à peu près un an. Quand il rentre dans l'étable, le taureau fonce dessus. Puis, tu sais comment est-ce qu'on était à manger, là, il y avait la patente là, pour l'air, là, tu sais, dans notre table, là. Là, Augustin rentrait là, on mettait nos fourches, là il a pris une fourche, puis le taureau fonça dessus. Là, il a pris une fourche, puis il l'a piqué, là, il a reculé, puis il y avait un morceau de bois, comme un morceau de piquage, je sais pas trop comment ça se fait que c'était dans la table, ça, c'était en épinette. Là, il a pris ça, là, puis il l'a assommé.
Il l'a assommé le bœuf?
Ah oui. C'était lui ou ben non le bœuf. J'arrive à l'étable, moi. Je voyais le bœuf, il saignait. Qu'est-ce qui est arrivé? Regarde-moi. Il est à l'ours, puis il m'a chargé.
Et comment ça se fait qu'il était libre? Il s'était libéré?
Il s'était libéré dans la nuit. Il était attaché, puis il s'était libéré dans la
nuit. Alors, comment est-ce qu'on attache un bœuf, normalement, là?
Ça, c'est une bonne question. Parce que on ne sait pas. Tu peux l'attacher par l'anneau, il peut se déchirer le nez. S'il y a l'idée de se lâcher, et puis tu l'attaches avec un... Parce que un taureau, là, dans le cou, il y a une force. Ça prend un bon corps, ça prend une bonne chaîne pour être capable de tenir. Ça prend une chaîne bio.
Le bœuf que tu vois dans le livre, le Saint-Max, là, en dernier, quand il a fini sa vie, ce bœuf-là, le nez était complètement déchiré en travers. Et puis, il avait mis un anneau de même par-dessus de même. Mais il est mort à la maison. Il est mort dans l'étable, ce bœuf-là. Il est mort de vieillesse. Il était plus méchant en dernier, mais il l'était au commencement. C'était un vilain bœuf. Tellement bon. Un bon bœuf, par exemple. Il avait son sperm count était vraiment bon, puis les fermiers l'aimaient très bien. Il était vicieux.
Oui, avant, j'avais à peu près... T'as venu mener là, en slé au village, t'as des cannes dans le temps. Puis les chemins étaient bouchés, t'as venu mener là au village, avec une slé. J'arrive à la maison, puis notre vieille étable, là, on avait un bon côté, puis il y avait un petit taureau, là. Je l'ai pas vu venir, il lâchait pour aller les faire boire au puits. Puis j'ai pas vu venir le taureau. Moi, je détaille mes chevaux, il arrive, puis il me pogne. Il me pogne entre les deux cuisses, là, avec sa corne. Puis là, j'ai tombé dans la boîte. C'est ça qui m'a sauvé. Là, je débarque, ils refoncent sur moi. Là, je suis venu à bout de m'en venir, puis j'ai pogné une écoute pour les deux. Puis là, j'ai commencé à le tapocher sur la tête. Puis là, il est parti, puis c'est en allé dans les tables. Jean-Marie, il était à la maison, on entend, là, le... il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il m'a foncé, il m'a foncé, il dit, comme pilote, je t'ai déchiré, il dit, je t'avais une maudite porte du sac, puis ça. Puis il a foncé sur moi. Là, je m'en vais pour lui aider à mettre les éléments dedans, pour les attacher, là, ces jeunes-là. Je viens pour ouvrir la porte, il était là qui m'attendait, puis il me ferme la porte au nez. Oh, il dit, on va le trimer tout à l'heure. Il y avait ses cornes. Fait que, on est venu à bout de l'attacher. Donc, Jean-Marie est parti, il est revenu au village. Il cherchait des corneurs. Dans le temps, c'était toujours la France qui avait des corneurs. Puis là, on lui a coupé les cornes, puis on lui a mis un anneau. J'ai jamais été capable de travailler avec ce peu-là.
Non? Non. Parce qu'il savait que tu avais pogné un coup?
Oui, il m'avait, puis il était toujours prêt. Bien. Fait qu'à un moment donné, papa, il dit, on va s'en débarrasser. Charge, puis pas dans l'huile.
Oui, parce qu'évidemment, là, il y a une histoire entre vous et le taureau.
Oui, oui. Ouais.
Et là, le taureau, lui, il a bonne mémoire.
Lui,
quand même.
Lui il ne m'a pas oublié. Ouais, puis moi non plus.
Mais alors, avez-vous connu, est-ce qu'il y a d'autres épisodes comme ça, presque dramatiques, ou est-ce qu'il y a eu des histoires qui ont fini très mal?
Il y a des histoires de même dans la vie de chez nous. Il fallait qu'il y ait des histoires. C'était des monstres. Mon père, comme Denis parlait, mon père s'est fait. On avait de l'étable, il y avait. C'était tout clôturé. Double clôture. Il y avait une clôture, 5 broches à piquer à trous, là. Après ça, en dedans, tu avais une clôture électrique. Et puis, tu faisais sortir le bœuf. C'est tout le temps divisé avec des grosses. Gros pipage. Dans les corridors, là, dans le milieu des corridors, là, à peu près, à peu près 4 pieds de haut, tu étais tout pipé. Ça fait que tu pouvais prendre le taureau sur un bord, puis t'en aller sur l'autre bord du pipage. Puis tu avais des ouvertures pour traverser des places, mais le bœuf ne pouvait pas traverser. Fait que c'est ça qui donnait.
Un véritable corridor.
Un corridor pour le taureau. Sans ça, c'est ça qui nous protégeait pour être capable de. Les emmener quand ils voulaient faire le breeding, puis tout ça. Puis ils sortaient dehors. En tout cas, il sort un bœuf dehors, puis après ça, il arrive, il sort l'autre bœuf dehors, puis après ça, je ne sais pas quoi. Il regardait dans la cour, puis t'es pas loin des tables, il dit, c'est quoi ça? Il y a quelque chose qui avait, le vent avait il avait envoyé un morceau de papier, je pense. Il s'en va pour ramasser le papier, puis le bœuf de pointe droite par en arrière. Il a passé par-dessus la clôture de Saint broches à piquant, puis il s'est trouvé l'autre bord. Pas fait mal.
Un miracle?
Ah oui, pour ses broches coulo.
Alors donc, il a poigné par les
couilles. Ah, comme en fait à Denis, là, c'est le même qui le poigne. Il prend en dessous, là, puis il t'envoie
le temps. Il prend en dessous, puis il arrive, là, ça, là, il va, si t'as le tour viré, là, il va te prendre par en dessous, hein, aux fesses, là. Sacré un coup. Il te lève.
Il prend par les cornes ou par le front?
Par le crâne. Les autres, c'était par le crâne parce qu'il n'y a pas de corne.
Pas de corne.
Ah, donc, évidemment, il fallait écorner le bœuf.
Ah oui, les bœufs n'avaient pas de cornes, non. Toutes les bœufs étaient écornés. Ah oui. Et les bœufs étaient tellement longs, surtout Saint-Max, ça, dans son port. Il y avait, quand tu allais le nettoyer, là, mais il y a des fois, là, qu'il y avait du fumier sur le mur, la même hauteur que le bœuf, sur le mur en arrière. Il y a des fois, là, je voulais t'aller avec la pelle, c'est juste pour dire comment gros, puis comment haut qu'il était. Là, il fallait t'en nettoyer le mur, parce que tu faisais d'être sur le mur. Puis là, quand tu voulais aller, pour moi, là, quand tu rentrais dans le port, là, ça fait qu'il y avait des grosses portes de métal, de fer, là, quasiment comme un prisonnier, là, tu l'ouvrais ça. Il était attaché, tu lui donnais quelque chose à manger pour l'occuper. Puis là, il fallait aller en arrière du bureau pour aller nettoyer, parce qu'il a fait son pipi, puis son caca, là. Pogné à queue, là. Puis là, tu essayais de tirer dessus pour le faire grouiller, cette grosse affaire-là. Là, il partait, là. Quand il avait grouillé, là, tu te dépêchais. Ma fourche était à peu près 3 pieds de haut. Ah, peut-être 3 pieds. Ouais. Puis, je faisais juste la prendre, pas au bout, là. Je faisais juste la prendre en travers, là, même. Puis, je faisais tout le temps regarder le bœuf. Puis, si le bœuf décidait de revenir, je mettais la fourche de main. Puis là, quand il arrivait, puis poignait, ben, ça piquait, là. Là, il retournait. Et des fois, il faisait ça un coup, c'était pas trop pire, mais des fois, il m'a pas ça. Il se mettait à ruer. Quand il se mettait à ruer, là, puis là, il voulait revenir sur son bord, là. Je n'ai pas fait une fois, j'ai tout bien fait deux ou trois fois. Saute direct en dessous du but. Passe direct en dessous. La seule manière de faire sortir.
Encore une fois?
Le but, à la place de revenir sur moi, là, il était tellement de hauteur, là, il est attaché en avant, mais il veut venir sur moi, sur le bord du mur, là. Je prenais une dive direct en dessous du but pour sortir.
En tes quatre pattes.
En tes quatre pattes. Yeah.
C'est un jeu dangereux de jouer avec ces animaux-là. Parce que c'était dangereux.
Oh. En tout cas, tu as bien que Père il ne m'a pas dit qu'il était content quand ils sont partis, mais moi, j'étais content.
Merci, messieurs.